BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Good Evening Business. On a encore énormément de choses, d'informations à vous donner ce soir jusqu'à 20h, beaucoup de choses et beaucoup de chiffres. À commencer par ces chiffres absolument délirants qui sont tombés ce matin, qui concernent le secteur aérien, des chiffres qui nous confirment que le Covid est désormais loin, loin, très très loin derrière nous. On va voir ça bien sûr dans un instant. Sinon, dans l'actualité ce soir, bien sûr, il y a encore le dossier Atos. On espérait une annonce ce matin concernant le repreneur. Ben, finalement, il faudra attendre encore au moins 48 heures. On verra ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. Puis bien sûr, on va revenir sur l'annonce de Standard & Poor's qui a donc dégradé la note de la France vendredi soir. On y reviendra pour constater que, comme on s'y attendait, il n'y a eu mais alors absolument aucune conséquence, aucune sur les marchés financiers aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte, bien sûr, de ce que nous a dit l'agence de notation. Voilà le programme non exhaustif. Les experts arrivent à 18h30. En attendant, 18h15, c'est l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Très bonne soirée. On est ensemble jusqu'à 20h.
Good evening business, le journal.
Donc oui, d'abord, ces chiffres absolument dingues qui sont tombés ce matin. Le secteur aérien, c'est le syndicat international de la profession qui nous a dit ce matin, le secteur aérien devrait transporter cette année près de 5 milliards de personnes. Bonsoir Nathan Cocampo. On n'a tout simplement jamais vu ça.
Ouais, on est bien au-dessus du précédent record de 2019. L'année avant la pandémie, on comptait 4,5 milliards de voyageurs, toutes compagnies confondues. 500 millions de plus cette année, c'est considérable, d'autant que les prix des billets ont flambé en 4 ans. Et les compagnies peuvent se réjouir. Leur chiffre d'affaires devrait avoisiner les 1 000 milliards de dollars selon IATA, avec un bénéfice net de plus de 30 milliards de dollars. Là aussi, c'est un record. De quoi éponger en partie les pertes du Covid. Selon les dernières estimations de l'Association internationale du transport aérien, les compagnies ont perdu plus de 180 milliards de dollars entre 2020 et 2022.
Donc c'est reparti très fort et on confie, on est toujours sur un secteur qui vise la neutralité carbone en 2050, ça n'a pas changé.
Oui Guillaume, le trafic aérien est responsable de 3% des émissions de CO2 dans le monde, mais attention, seule une minorité de la population mondiale prend l'avion. On estime que seuls 10 à 20% de la population mondiale prend l'avion. Ce chiffre est donc trompeur, le chiffre de 3%. Et l'avion, ce n'est pas que du CO2, il émet aussi de l'oxyde d'azote et des traînées de condensation qui participent fortement au réchauffement climatique. Alors pour atteindre l'objectif de 2050, les compagnies misent d'abord sur les SAF, les carburants d'origine non fossile, des biocarburants. L'Association internationale du transport aérien vise une proportion de 65% de ce carburant aérien durable dans 25 ans. Aujourd'hui, il représente seulement 0,5% de la consommation totale du transport aérien. Alors pour atteindre cette neutralité carbone, le secteur mise aussi sur les nouvelles technologies, comme l'hydrogène. Airbus prévoit par exemple son premier avion à hydrogène pour 2035.
Voilà donc ce record qu'on va battre cette année, 5 milliards de personnes transportées. Alors 2019, dernière année pré-Covid, on était à 4,5 milliards. Voilà,
exactement.
On a fait mieux aujourd'hui qu'à cette époque. Merci beaucoup Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc une nouvelle fois le dossier Atos, bien sûr. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Ça a beaucoup discuté ce week-end, Mathieu. On espérait, on le disait ici même vendredi soir, avoir un accord sur le nom du repreneur ce lundi matin. David Layani, Daniel Kretinsky. Le fait est que ce soir, on continue de discuter et qu'on va encore discuter quelques heures, Mathieu, apparemment.
Ah oui, même quelques jours. Ça a été assez actif ce week-end. D'abord, David Layani, en gros, dans la nuit de samedi à dimanche, a signé un accord avec certains créanciers, pas tous les créanciers, mais une partie des créanciers. Là, on a cru évidemment qu'il prenait une longueur d'avance assez nette et qu'on se dirigeait vers, en tout cas, un choix d'Atos envers le fondateur de OnePoint. Et puis, hier soir, dimanche, il y a eu beaucoup d'hésitations. Il y a eu un lobbying évidemment très intense de l'autre candidat, Daniel Kretinsky, allié à la BNP Paribas, qui a d'ores et déjà dit qu'elle ne soutiendrait pas David Layani. Et puis, ça a fait douter le conseil d'administration d'Atos. Il faut dire qu'il y a beaucoup de dirigeants chez Atos, dont le président Jean-Pierre Mustier, qui sont hésitants face à l'offre de David Layani depuis maintenant plusieurs semaines. Il la considère comme financièrement trop fragile et donc il se donne encore 2-3 jours pour essayer de réunir le maximum de créanciers derrière l'un des deux candidats.
Donc pour l'instant, impossible de savoir qui va l'emporter, ni à quelle échéance. On aura un début de réponse, ou peut-être l'échéance de mercredi. Il faut la prendre comment pour vous, cette échéance, Mathieu, finalement?
Je serai prudent, tout comme toujours dans ce dossier. Ça peut encore être décalé. Il y a un point quand même assez important, c'est que la plupart des banques françaises, et il n'y a pas que BNP Paribas, mais d'autres, les comptes ne sont pas encore tout à fait exacts, mais la plupart des banques françaises ne soutiennent pas David Layani. Et ouais, ça, c'est quand même un vrai handicap. Il a beaucoup de créances.
Une divergence de vue au sein du monde bancaire français, apparemment.
Oui,
sur ce sujet.
Les banques étrangères qui sont prêtes à le suivre, mais pas toutes, encore une fois. Et donc, c'est là-dessus que ça va jouer. Et dans une restructuration aussi importante que Atos, une grande entreprise française, un dossier très politique et politisé en France, il est difficile, en tout cas pour beaucoup d'acteurs du dossier, de voir un repreneur qui ne soit pas soutenu par les banques françaises. Donc c'est autour de ça que ça va jouer.
Bien, donc on continue à discuter en attendant. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Bon, puis pendant ce temps, ça vous a peut-être échappé, mais les Américains, les GAFAM continuent d'investir dans le cloud, dans l'intelligence artificielle en Europe. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Qu'est-ce que nous a dit encore Microsoft aujourd'hui? Investissement de 3 milliards d'euros en Suède. Après, on le rappelle, un investissement de 4 milliards d'euros en France. C'est au moment de Choose France. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, les géants de la tech américaine recommencent à se positionner sur l'Europe,
Fred? L'Europe a bien entendu toujours fait partie de leur stratégie, mais c'est vrai qu'il s'agissait plus dans les investissements d'équipes commerciales, des centres de recherche, des investissements dans des start-up, et puis quelques data centers un peu parsemés, puis il y avait quelques raisons fiscales, notamment de s'installer en Irlande. Mais là, les futurs besoins en IA sont en train d'accélérer les choses. L'IA, c'est de la collecte de données, du recueil de données, du stockage de données. Il faut faire tourner des algorithmes, ça veut dire la puissance de calcul. Et puis, il faut quand même pas se le cacher. En Europe, on a de très grandes entreprises qui traitent un maximum de données, qui sont en train de lancer leur projet IA et qui veulent avoir ces centres de données pas loin de chez eux, parce que le calcul est plus rapide, parce que ça va coûter moins cher en empreinte carbone, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons en souveraineté qui font qu'on ramène tout ça auprès de l'Europe. Donc ça explique qu'aujourd'hui, ces entreprises, elles ne peuvent pas avoir leur propre infrastructure, ça coûte beaucoup trop cher. Donc elles s'adressent à ces géants du cloud qui sont les seuls à pouvoir investir en serveurs, investir en processeurs graphiques et proposer des services d'IA qu'ils font tourner derrière dans leur cloud. Et c'est pour ça qu'on voit 4 milliards d'euros en France, 3 milliards en Suède, mais il y avait 2 milliards annoncés en Espagne il y a quelques semaines, 3 milliards en Allemagne, et je vous parle de Microsoft, mais Amazon, c'était 1 milliard et demi en France, oui. 15 milliards en Espagne, 8 milliards en Italie, enfin bref, 8 milliards en Allemagne, pardon, 3 milliards en Italie, ça pleut de partout.
On était un petit peu jaloux sur Amazon quand même, on avait l'impression d'avoir été mal loti par rapport à nos voisins.
Oui, voilà. Après, ce qu'il faut voir quand vous discutez des Américains, certains, l'Europe, c'est un tout, savoir que c'est un peu plus au nord, un peu plus à l'ouest, ils regardent un peu, ou ils regardent plus une répartition géographique que des politiques nationales. Donc ouais, ça, avec notre, on a du mal à le comprendre avec notre œil européen, mais les Américains, voilà, c'est sur la carte de la géographie, l'Europe, c'est l'Europe. Et puis derrière, c'est vrai qu'on a les compétences ici. On a, selon les pays, une énergie décarbonée, pays du Nord, pays et la France, donc pour faire tourner tout ça. Et puis, l'Asie n'a plus aussi bonne réputation, donc plus on pourra un peu s'en éloigner, les Américains sont bien contents de trouver cette terre européenne. Et puis derrière, investir un maximum en formation.
Et voilà pour ces investissements. Donc on continue du côté des géants de la tech américaine, Microsoft, encore près de 3 milliards d'euros qui vont être investis du côté de la Suède. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés tout de suite retrouver Aude Kersulec depuis Euronext à La Défense. Bonsoir Aude, on vous retrouve donc depuis La Défense. On a terminé quasiment à l'équilibre ce soir sur l'indice parisien.
Oui, première séance du mois de juin, positive mais de peu, plus 0,06% et juste en dessous des 8000 points, 7998 points. On avançait bien pourtant jusqu'à la mi-journée. Alors qu'on se le dise, ce n'est pas la dégradation de la note de la France qui a affolé les investisseurs aujourd'hui. Celle-ci est passée inaperçue. On a même le taux obligataire, le 10 ans français qui a baissé par rapport à vendredi, qui est repassé sous les 3,10% à 3,05%. Des marchés en fait soulagés à qu'elle ait eu lieu. Non, c'est une statistique américaine qui a changé la donne au cours de la journée. L'ISM manufacturier qui est ressorti en dessous des attentes et en zone de contraction à 48,7. Ça a retourné Wall Street qui avait pourtant ouvert dans le vert. Donc on a deux indices à Wall Street qui sont en ce moment dans le rouge. Et puis ce qui a pesé aussi dans la balance, c'est le recul du pétrole. On a eu l'OPEP Plus qui s'est prononcé ce week-end sur une prolongation de la réduction de la production de pétrole. Mais quand même, il y a eu un signe positif du cartel qui a annoncé qu'il remettrait dans les 12 prochains mois des barils en vente sur le marché. Et finalement, bien les haussiers n'ont pas eu raison. Et c'est la baisse qu'il a emportée sur le marché du pétrole. $78 le Brent ce soir. Total Energy, donc une grosse capitalisation de notre indice qui recule de 1,6%. Voilà, donc première séance de la semaine légèrement dans le vert, mais on rate les 8000 points en clôture à 7998 points.
Merci beaucoup, Aude. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Effectivement, le Dow Jones qui perd du terrain, moins 0,7%, 38 406 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est en hausse, plus 0,4%, 16 804. Tout ça à la mi-séance. 18h09, c'est donc l'ancien PDG de DF, Henri Proglio, qui est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Henri Proglio, l'ancien patron de Veolia et surtout l'ancien patron d'EDF. Bonsoir Henri Proglio.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous parce qu'en plus, c'est une semaine en ce moment un petit peu compliquée pour vous puisque vous êtes au cœur de votre procès. On va y revenir forcément dans un instant. Vous publiez l'étrange débâcle, comment la France a perdu sa souveraineté énergétique. J'ai envie de dire, c'est le tome 2 de la débâcle d'EDF que vous avez présidé, on va le rappeler, de novembre 2014. De novembre 2009 à novembre 2014, voilà, je vais y arriver. C'est même Emmanuel Macron qui a donné un grand coup de balai, vous nous direz pourquoi peut-être. C'est donc le tome 2, après les joyaux de la couronne, il y aura peut-être un tome 3, vous nous direz pourquoi. Juste un mot d'abord sur votre procès, un procès pour favoritisme. Est-ce que vous comprenez les termes de ce procès ou pas ?
Pas vraiment. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je réserve évidemment mes commentaires au tribunal. C'est un procès, au fond, qui met en cause certains contrats qui ont été passés lors de ma présidence d'EDF, c'est-à-dire qu'on revient 15 ans en arrière.
20 millions pour favoritisme, oui, absolument. C'est-à-dire que vous avez passé des contrats avec des boîtes d'intelligence économique,
des prestataires. Non, oui, il faut des prestataires, oui, enfin, divers. Enfin, c'est une petite, toute petite partie des contrats passés par EDF à l'époque. Oui. Hein, puisque... La vérité, c'est vrai, enfin je l'ai précisé lors de ce procès. Ce procès porte sur ces fameux contrats qui représentent au total 22 millions sur les 5 ans, ce qui est à la fois beaucoup d'argent quand on considère la masse en valeur absolue et qui en fait représente 0,005%.
Mais vous en aviez besoin, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous apportait ? Est-ce que c'était une manière de les neutraliser parce qu'il y avait tous les plus grands noms de la place, de la communication ?
Non, pas du tout. Mais ça, je l'ai expliqué. Chaque contrat a sa justification. Mm-hmm. Chaque contrat, enfin, ces contrats étaient des contrats qui ont été confiés à des prestataires externes qui étaient des experts en la matière.
Les oui, qui sont reconnus, mais donc certains, on peut dire, c'est une manière aussi d'empêcher qu'ils vous nuisent.
Non, pas du tout. Mais enfin, ça, encore une fois, ne rentrons pas dans le détail. Mm-hmm. Je dis que ma bonne foi ne peut en aucune manière être mise en cause. Et je pense que le tribunal le reconnaîtra. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, à ce stade.
Ça veut dire que quand on est patron d'EDF, on a besoin... Vous êtes un homme de réseau, vous connaissez tout le monde, Henri Proglio. C'est pour ça que vous étiez intéressant aussi à interviewer. C'est que vous avez des avis sur beaucoup de sujets, vous avez des connaissances sur beaucoup de sujets. Quand on est patron d'EDF, est-ce que ça veut dire qu'on est un peu une sorte de ministre de l'énergie bis, ou le vrai ministre de l'énergie bis ? On a besoin, comme tout ça, c'est des nominations politiques, on a besoin d'avoir tous ces réseaux ?
Ah non, quand on est patron d'EDF, on n'a pas besoin d'acheter des réseaux. Enfin, je veux dire, voilà, dégonflons la baudruche. Non, quand on est patron d'EDF, on est un patron opérationnel d'une grande entreprise qui est, au fond, la référence en matière d'électricité dans le monde. Donc, la mission d'EDF, c'est non seulement le service public de l'électricité, mais c'est aussi de tirer l'industrie française et en donnant un atout compétitif considérable à la France.
Alors, vous publiez donc l'étrange... débâcle chez Michel Lafon, comment la France a perdu sa souveraineté énergétique. Il y a beaucoup d'actualités autour d'EDF. Hein. Il y a notamment le rachat des fameuses turbines Arabelle. Il y a aussi l'ouverture de, enfin, l'inauguration de Flamanville. Il y a aussi le projet du siècle, le contrat du siècle avec ses 6 EPR en perspective. Vous, vous commencez par un, votre propos liminaire, votre avant-propos, c'est sur le retrait forcé de la cote.
Oui, je regrette,
vous dites ça, en fait, ça affaiblit la signature de la France. Donc j'ai envie de dire, on va commencer par là, parce qu'elle a été affaiblie depuis, depuis vendredi dernier par une autre agence de notation. Mais est-ce que pour vous, c'est si important que EDF soit coté?
C'était important. Ça avait un sens, parce que ça donnait à l'entreprise et à son président la possibilité, au fond, d'être en quelque sorte une entreprise de plein exercice et d'avoir un devoir fiduciaire vis-à-vis de l'ensemble des actionnaires et pas uniquement les actionnaires. Et aujourd'hui, du fait de la disparition de la cotation et du fait d'avoir un seul actionnaire, au fond, c'est l'État qui est... On redevient une quasi-administration.
Donc pour vous, le vrai patron d'EDF, c'est Bruno Le Maire ou le patron de la PE?
Non, le vrai patron d'EDF, c'est le patron d'EDF, mais il aura beaucoup moins de force pour faire valoir ses avis vis-à-vis de l'État actionnaire.
Quel jugement vous portez sur Luc Rémont, qui a eu du mal, hein, qui a dit de manière, je serais PDG ou rien du tout, parce qu'on voulait qu'il soit directeur général.
Mais ça, il a raison.
Est-ce que vous trouvez qu'il arrive à redorer un peu le blason d'EDF ou pas encore?
Luc Rémont a une immense tâche à accomplir. Il s'y donne totalement. Bon, donne acte de son dévouement total à l'entreprise. Ouais.
Là, vous ne répondez pas complètement. Enfin, si, vous répondez entre eux à ma question. Je veux dire, c'est...
On répond en boss à la question une fois que le président a fini son mandat. Avant, c'est compliqué. Enfin, on peut dire il a l'air d'eux, mais c'est les actes et les faits qui le prouveront.
Mais quand vous dites, vous titrez là, l'étrange débâcle, ça veut dire que pour vous, EDF, aujourd'hui, c'est plus la grande entreprise que tout le monde nous enviait dans le monde. Aujourd'hui, c'est tout petit, quoi.
Non, je n'ai pas dit que c'est petit. J'ai dit que EDF est beaucoup plus vulnérable et beaucoup moins puissante qu'elle n'a été. Mais ça, c'est un avis partagé par tous les observateurs. Ils font un constat. Ouais. EDF a été la référence.
Elle n'est plus aujourd'hui.
Elle est beaucoup moins. C'était la référence du nucléaire mondial. C'était la référence du contrat de service public qui a disparu. Et donc, au fond, c'est vrai que EDF d'aujourd'hui se bat pour rester l'entreprise, la meilleure entreprise électrique du monde. Et c'est vrai que je rends hommage à tous les collaborateurs de cette maison qui...
Mais est-ce qu'elle est encore dans la course? Parce qu'on parle beaucoup du fait que les compétences ont disparu, en fait.
Elles se sont, à certains égards, affaiblies. Quand vous regardez le nucléaire et que vous voyez qu'il y a eu une politique anti-nucléaire, il faut appeler un chat au cours des 12-13 dernières années, on ne peut pas dire que ça aide l'entreprise à renforcer ses compétences et son image. Quand vous savez que EDF ne surpaye pas ses collaborateurs, loin de là, et qu'entre l'industrie et la finance, il y a un gap considérable en matière de rémunération et de revenus, et qu'entre EDF et l'industrie, il y a un autre gap, il est clair que pendant le temps où le mot d'ordre était de dire le nucléaire n'a pas d'avenir, il faut réduire la part du nucléaire.
Donc les compétences ont fui.
Ça n'aide pas à recruter les meilleurs éléments. Et Dieu sait que la France peut avoir de très bons éléments en matière d'école d'ingénieur. Évidemment, ça n'est pas... Quand vous avez honte du métier que vous exercez, que vous avez des difficultés à être comparable aux autres en matière de revenus, et qu'on vous dit en permanence que vous n'avez pas d'avenir, c'est sûr que ça n'aide pas beaucoup.
Le fond du trou, pour vous, ça a été la fermeture de Fessenheim, qui a été décision prise par François Hollande, mais qui a été appliquée par Emmanuel Macron.
C'est pas le fond du trou, c'est un acte symbolique.
Oui, mais est-ce que justement, il caractérise la débâcle d'EDF?
Non, il caractérise, l'antinucléarisme du gouvernement français.
Oui, mais donc ça a provoqué sa chute. Je parle d'EDF.
Ça a abîmé EDF. La chute n'est pas arrivée, mais ça a abîmé EDF, c'est clair que ça a abîmé EDF.
Alors aujourd'hui, on voit bien qu'on est complètement dans un tempo totalement différent, puisque maintenant, c'est le chantier du siècle, EDF doit construire 6 EPR, il devait être inauguré demain, mais peut-être incessamment sous peu, il y a l'EPR de Flamanville, enfin, j'ai envie de dire. Et puis là, on a appris vendredi le rachat des fameuses turbines d'Arabelle, qui avaient été vendues par la France, et puis maintenant qui est rachetée à GE. Est-ce que pour vous c'est une très bonne nouvelle?
C'est une nouvelle. La bonne nouvelle eût été que la France continue à considérer le nucléaire comme une industrie forte, une industrie d'avenir, et que, comme vous savez, le nucléaire c'est une industrie qui exige une vision à long terme. C'est pas une industrie qui peut s'accommoder de sinusoïdes et d'hésitations et de d'aller-retour.
Ouais.
Et au fond, ce que je déplore, et c'est ce que j'ai dit à la commission d'enquête parlementaire, c'est ce que je redis ici, c'est qu'au fond, les raisons de la perte de la souveraineté énergétique de la France, qu'on a constaté au cours des dernières années, en fait.
Mais pour vous, c'est un scandale qu'on ait vendu justement ces turbines Arabelle ?
C'est une faute.
Oui.
Scandale, le terme est beaucoup, il est trop fort.
Parce qu'on paye très cher ce qu'on a vendu.
On paye plus cher ce qu'on a vendu, et entre-temps, on s'est coupé au fond de nos principaux clients. Parce que les gens qui construisent... Arabelle, ce sont les meilleures turbines qui existent dans le monde en matière de production d'électricité nucléaire. Qui sont les acheteurs? Les Chinois et les Russes. Oui. Ceux qui construisent des centrales nucléaires et qui achètent des turbines. Évidemment, comme on s'est brouillé avec les deux, c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile d'avoir un plan de charge pour les turbines qu'on aurait pu les avoir si on avait continué, si on a vu un continuum, je dirais, logique d'entreprise.
Tiens, juste une petite parenthèse. Est-ce que sur le dossier Hinkley-Point que vous connaissez bien, est-ce qu'il fallait vraiment le faire pour maintenir les compétences, comme le disait Pierre Gadonex? Est-ce que vous trouvez que ça a été une erreur de faire Hinkley-Point et que ça va coûter très très cher à EDF?
D'abord, EDF, sous la présidence de Pierre Gadonex, a pris le contrôle de ce qui s'appelait autrefois British Energy, devenu EDF Energy, c'est-à-dire de l'ensemble de la production électronucléaire britannique. À partir de là, il me paraissait nécessaire d'être, au fond, au rendez-vous du futur nucléaire britannique. Parce que...
Donc vous avez soutenu.
Donc je l'ai soutenu.
Oui, bien sûr.
Je l'ai soutenu et j'ai négocié le contrat.
Hinkley-Point. D'où ma question.
Donc il fallait le faire. Dès lors qu'on avait...
D'avoir indexé le coût de l'énergie, enfin le prix, c'est ça qui va coûter très très cher à EDF.
C'est beaucoup de choses. Dans le contrat que j'avais négocié avec les Britanniques, et avec le Premier ministre devenu entre-temps ministre des Affaires étrangères, ce contrat reposait sur plusieurs socles, socle, trois piliers.
Ouais.
Le premier pilier, c'était le prix garanti par la Grande-Bretagne pour les 35 ans d'exercice. C'était les 92,50 €, ce qui était très supérieur au prix du marché.
Ouais.
Oui, mais... Le deuxième, c'était la déconsolidation, c'est-à-dire que j'avais obtenu l'accord des Britanniques pour que EDF n'ait pas le contrôle, mais se limite à 45%.
Et là, c'est le cas.
Troisièmement, l'accord de la Banque d'Angleterre, ou en fait le gouvernement britannique, pour garantir la dette.
Ouais.
Les deux derniers piliers ont disparu.
Ont disparu, et c'est pour ça que ça coûte très très cher. Vous pensez que ça va coûter combien, les deux à EDF?
Oh, je ne veux pas être au réseau de mauvais augure. Je pense que ça va coûter...
Combien?
Beaucoup d'argent.
Mais c'est-à-dire?
Je ne sais pas quel va être... D'abord, il faudrait savoir quel va être le coût d'investissement des EPR concernés. Et
on voit que c'est difficile pour vous quand même, Henri Proglio, sur ce sujet.
J'ai une idée.
Mais en même temps, vous avez une idée, dites-nous l'idée.
Non, mais ça sera entre 10 et plusieurs dizaines de milliards.
Oui, c'est entre 10 et 50, quoi.
Oui, 50, c'est peut-être excessif. Enfin.
Oui. Ça veut dire que, en fait, c'est une erreur que vous avez faite. Il n'aurait pas fallu signer, mais vous pouvez pas. On ne peut jamais prédire l'avenir.
Non. J'ai quitté l'entreprise à un moment où les conditions contractuelles étaient, en principe, beaucoup mieux bordées qu'actuellement.
Ouais.
C'est tout. Je vous ai dit les conditions qui m'avaient conduit à signer. Elles ne sont plus réunies aujourd'hui.
Est-ce que le... Est-ce que c'est, pour vous, ce qui a contribué à cette débâcle, encore une fois, cette étrange débâcle, c'est notamment c'est l'ARENH, cette tarification. Là, maintenant, c'est la fin de l'ARENH, il y a une nouvelle régulation. Est-ce que vous dites, ouf, ça y est, enfin, on sort de l'ARENH. Et puis, il y a cette nouvelle tarification, nouvelle régulation souhaitée par votre successeur, Luc Rémont. Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Non, mais qu'on change la règle du jeu en matière de tarification, c'est une chose qui était indispensable.
Ouais.
Maintenant, si on regarde le sujet dans son ensemble, c'est-à-dire au fond, quelles sont à l'origine des problèmes actuels. L'origine des problèmes actuels, ça a été la doctrine bruxelloise de la concurrence. EDF était un merveilleux outil quand c'était un monopole exerçant un service public au service des Français. Et on avait à la fois la capacité... On avait la surcapacité qui faisait de nous le premier exportateur d'électricité en Europe, avec le prix le moins cher d'Europe. Bon. Et puis, d'un seul coup, on nous a dit « Ah non, mais, doctrine bruxelloise oblige, la concurrence s'impose. La concurrence fait le bonheur des peuples. Donc, vous n'êtes plus autorisé à être un monopole. » Et on nous a imposé une règle du jeu absurde, qui était insupportable pour n'importe quelle industrie, qui était de vendre notre énergie à moitié... tout son prix de revient, voilà. À des concurrents qui, eux, n'avaient aucune obligation.
En fonction, oui. Mais néanmoins, est-ce que là, maintenant, la nouvelle politique tarifaire qui a réussi à imposer enfin, au forceps, Luc Rémont, est-ce que là, elle vous paraît bonne
? Elle est déjà beaucoup plus satisfaisante. Ouais. Mais il ne reste pas moins que EDF reste le seul, pratiquement le seul producteur d'électricité en France, enfin, à l'exception de un petit peu de renouvelables. Et que toute cette je dirais, gesticulation autour des prix est un sujet qui doit faire remuer dans sa tombe Marcel Boiteux, qui avait formalisé...
Le premier dirigeant d'EDF. Peut-être, en conclusion, puisque c'est étrange débâcle, encore une fois, pour reprendre le titre de votre livre, c'est de dire que c'est les politiques, même, derrière, qui sont largement responsables, même s'il y a des erreurs qui ont été commises ici, sans doute, par les présidents d'EDF. Mais c'est les politiques, cette vision court-termiste que vous dénoncez, du reste, dans votre livre, d'une manière assez vigoureuse.
Bien sûr.
C'est eux qui ont tué EDF. Enfin, pas tué, parce que c'est en train de renaître de ses cendres, mais...
Non, mais c'est toute la réglementation européenne qui a été imaginée par les Allemands contre
EDF. Ouais, mais les Français n'ont pas su résister.
Ben voilà. Quand on me dit les Allemands sont des horribles... Non, les Allemands ont défendu l'Allemagne. Et ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, je peux le répéter aujourd'hui, je regrette que le gouvernement français n'ait pas défendu la France.
Oui, c'est ça. Donc on est d'accord. En fait, les politiques n'ont pas réussi à défendre la EDF, enfin, du moins le nucléaire. Là, c'est un peu la revanche du nucléaire.
Non, c'est pas la revanche du nucléaire.
Ben si.
J'ai toujours dit que le nucléaire était une industrie d'avenir. Ça se confirme. Il n'y a pas de revanche. Le nucléaire est une industrie qui avait vocation à se développer. Et je l'ai toujours pensé. Ouais. Aujourd'hui, on en voit l'émergence dans à peu près tous les pays, à commencer par les pays fortement peuplés, mais même les pays pétroliers.
Est-ce qu'on a une dernière question? Les 6 EPR, là, c'est ce qui va être, justement, va permettre la renaissance d'EDF?
Non, enfin... Où est l'intérêt de la France? Oublions un instant de raison EDF, qui est la France en matière d'électricité. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est la durée de vie, d'étendre la durée de vie du parc nucléaire français. Ouais. Et ça coûtera une soixantaine de milliards. C'est un investissement mineur par rapport au remplacement des réacteurs. Donc, si on veut sauvegarder le pouvoir d'achat des Français, faisons d'abord l'essentiel, c'est-à-dire... Admettons qu'il faut investir de manière à prolonger la durée de vie du parc et maintenir le prix de l'électricité à un niveau dont il n'aurait pas dû évoluer depuis des années. Puisqu'au fond, on voit qu'aujourd'hui, le renouvelable n'est pas indispensable, contrairement à ce qu'on nous raconte. Les besoins en électricité n'ont pas augmenté. Bon. Donc la vérité, c'est que le parc existant, qui existait il y a 10 ans déjà, suffisait à satisfaire les besoins de la France, et qu'il faudrait à la fois investir pour que ce parc dure, et en même temps prévoir l'avenir.
Merci beaucoup Henri Proglio, on aurait pu continuer, mais je rappelle que vous publiez donc L'étrange débâcle, et c'est publié chez Michel Lafond. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà. Il faut croire dans le nucléaire, il n'y a que le nucléaire qui compte, ça sera le mot de conclusion.
Non, l'hydraulique aussi.
Guillaume Paul, L'essentiel de l'info.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h36, nous sommes repartis. Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous comme tous les soirs jusqu'à 20h. Et nos experts, ils sont là. Mathieu Pechberti pour BFM Business. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonsoir, bonsoir Emmanuel. Et Edwige Chevrillon qui est revenu, bien sûr. Bonsoir Edwige. Pour commenter, bonsoir, bien sûr, l'interview d'Henri Proglio, toujours intéressant d'écouter Henri Proglio, alors qu'il s'exonère un petit peu, moi je trouve, de toutes les responsabilités, toutes les difficultés dont pâtit EDF. Oui, ce sont les politiques, ce sont les Allemands aussi, quelque part. Voilà.
Alors là, pour le coup, moi je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que les Allemands n'ont pas su défendre la France, enfin, le nucléaire, bah, à Bruxelles, c'est une évidence, souvenez-vous du projet Hercule, où les seins deux en deux, etc. Oui. Le nucléaire était banni de toute politique énergétique européenne, donc, et les Allemands qui imposaient leur loi. Petit à petit, on voit que la France est revenue, a réussi à réimposer le nucléaire, parce que la crise énergétique a bousculé la donne. À partir de là, quand même, donc ça c'est vrai, il y a une responsabilité énorme des politiques, il y a une responsabilité énorme des politiques européens, mais aussi une responsabilité, je suis d'accord avec vous, avec les présidents de l'EDF, la politique qui a été conduite, et notamment sur une clé point, on a senti que, alors il y a les trois points qui étaient importants, les deux derniers, comme ils disent, n'ont pas été respectés, n'ont pas été suivis. Mmh. Mais notamment, c'est la question de la garantie du prix qui coûte si cher, et sur qu'est-ce que ça peut coûter à EDF, il a un peu baragouiné, hein, entre 10 et 50 milliards. Un petit peu,
ouais,
50 milliards,
c'est un quoi. Sacré grand écart, quoi.
Oui, 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 absolument. Mais c'était la fourchette assez grande. Dans tous les cas, ça va coûter très cher à EDF, ça, ouais, c'est sûr. Et lui, il dit les 6 EPR, ils sont pas encore du tout lancés. On commence à dire qu'il faut lancer des commandes et tout. En fait, ce qu'il faut pour l'instant, pour les 20 prochaines années, c'est le grand carénage, ouais, donc le renouveau des centrales nucléaires existantes.
Non, mais voilà. C'est sûr que, d'ailleurs, à l'écouter et puis en regardant l'historique, EDF, c'est quand même l'histoire d'un gouvernement français qui n'a jamais su, qui n'a jamais réussi à défendre les intérêts français. Et par ailleurs, il met aussi l'accent sur un truc intéressant. Quand il parle du départ de la cotation, il dit quand EDF quitte la bourse, donc l'État redevient, oui, le seul actionnaire, et donc, évidemment, perte de pouvoir, perte de puissance, perte de liberté, on devient plus vulnérable et on redevient une administration. Ouais. Emmanuel Le Chypre.
Ah bah sur cette partie-là du diagnostic, il a raison, et c'est pas le premier à faire ce constat. C'est-à-dire qu'il y a plein de groupes qui ont été fragilisés ou qui étaient fragilisés parce que c'était des entreprises publiques plutôt que des entreprises privées, parce que vous n'avez pas la latitude, vous n'avez pas le pouvoir de décision, vous n'avez pas forcément les moyens financiers, etc., etc. Après, les Allemands, j'entends. Les gouvernements, j'entends. Après,
comment ça vous entendez pour les Allemands? Attendez, les Allemands, j'entends ça.
Bah, les Allemands, la responsabilité des Allemands sur la politique énergétique.
Ils sont défendus, et c'est les politiques françaises n'ont pas su, il l'a très bien dit, on peut pas défendre les intérêts français.
Bah non, les politiques français ont effectivement contribué à la destruction de cette filière nucléaire. Alors après, l'autre point, c'est que nos acteurs de la filière industrielle nucléaire n'étaient pas non plus obligés de s'entretuer entre eux.
Voilà.
Hein, voilà, donc ça, c'est sûr que...
Les fameuses bisbilles entre Henri Proglio.
Les bisbilles entre Areva
et Anne Auvergeon,
et EDF. Sur fond de guerre entre les grands corps d'ingénieurs, etc., bon, on n'était pas obligé. Et puis, il y a une partie où je pense que Henri Proglio n'est pas responsable, parce que si vous pensez qu'Henri Proglio connaissait quoi que ce soit à l'électricité, au fonctionnement d'un marché électrique et des processus industriels de construction, vous vous trompez lourdement. Henri Proglio, il aurait pu être président...
Il était patron de Veolia avant.
Oui, voilà, mais il aurait pu être président de n'importe quelle entreprise.
Son successeur qui naît de Vivendi, dont j'ai oublié le nom, connaissait pas
Jean-Bernard Lévy.
Jean-Bernard Lévy.
Et donc la vraie problématique, c'est pas celle du président d'EDF, c'est la façon dont ça se passait en dessous. C'est-à-dire la façon dont étaient conduits tous les process à EDF. Et c'est ça qui a détruit finalement l'efficacité d'EDF. C'est-à-dire que EDF est devenue une entreprise qui ne savait plus construire de centrales nucléaires. Moi, je me rappelle avoir rencontré Marcel Boiteux qui m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit, vous savez, construire une centrale nucléaire... Enfin, alors, c'est le père du programme nucléaire français. Il m'avait dit un truc très simple, mais vous savez, une centrale nucléaire, c'est extrêmement facile, hein. Il n'y a pas de technologie là-dedans, c'est que de la tuyauterie. Il disait le plus difficile, c'est de réussir à faire fonctionner ensemble tout un tas de corps de métier extrêmement différents. Ouais. Mmh. Et en fait, quand vous voyez les process à EDF, c'est-à-dire en gros, quand vous voyez que il n'y avait plus les compétences en matière de conception, donc la conception arrivait trop tard, que vous voyez que la réalisation commençait trop tôt, que vous voyez que les gens qui étaient censés superviser les chantiers, il y avait pas de dans n'importe quelle société de bâtiment, par exemple, vous avez
il y a un maître d'œuvre,
il y a un chef de chantier,
il y a un chef de chantier.
Oui, mais Manu, il l'a dit ça, il était d'accord pour dire que EDF a sous-payé les compétences pendant très longtemps, pendant trop longtemps. Donc, mais lui incombe cette responsabilité à la honte du nucléaire en France, et donc on n'a jamais voulu valoriser cette filière.
La façon, alors qui est que ces compétences se soient perdues parce qu'on n'a pas conduite centrale, ok, mais pour le reste, enfin dire toutes ces problématiques de conception, cet éclatement des processus de décision, quand vous aviez un petit problème sur une centrale nucléaire, attendre 3 semaines ou 1 mois pour une décision qui est une décision mineure, etc. Et en fait, le surcoût de...
Ah bah ça, c'est un peu le mal surcoût, français. Hein.
Pour terminer, le surcoût de l'EPR, c'est quoi? Le surcoût de l'EPR, c'est pas le surcoût de matériaux, de béton, etc., etc. C'est le surcoût de ces, allez, 8 à 10 000 personnes... ingénieurs, etc., qu'on a fait travailler et dont on a gaspillé la force de travail pendant des mois et des années. Et c'est ça qui coûte très cher aujourd'hui.
Bon.
Et ça, Proglio, à mon avis, ça lui passait complètement au-dessus.
C'est bien ce qui nous a semblé aussi.
Voilà pour Henri Proglio. Voilà,
allez, l'autre.
Mais comme ça serait passé au-dessus n'importe quel président d'EDF qui, encore une fois...
Il y en a eu d'autres.
Oui. Le président d'EDF n'est jamais un spécialiste de l'électricité.
Bah, Luc Rémond non plus, il vient de Genève.
Marcel Boiteux.
Oui.
Bah, bon, allez. Allez. Comment il s'appelait
lequel, le Pierre Gadonnec,
le policier. Alors, le...
Jean-Bernard. Rossi.
François Rossi, il n'y a rien non plus à l'électricité. Donc vous voyez, donc
c'est bien le drame des entreprises publiques.
Et la cheville ouvrière importante.
Bon, allez, on avance. Dans l'actualité ce soir, il y a une fois de plus, cher Mathieu Pechberti, le dossier Atos.
Ils n'y connaissent rien non plus.
Voilà, oui, c'est ça, exactement, on y vient.
Alors, ben, le chip n'y connaît rien. Là.
Rien, moi j'ai tout donné sur EDF. Là.
Bon, ça a beaucoup discuté ce week-end. On espérait, on se disait vendredi soir, ici même, sur ce plateau, Guillaume. On attendait en tout cas une annonce ce matin concernant le preneur, David Layani ou Daniel Kretinsky. Et finalement, eh ben, que nenni, on continue de discuter et la nouvelle échéance qu'on nous donne, c'est désormais mercredi. Qu'est-ce qui se cache derrière ces prolongations, Mathieu?
Alors écoutez, ce week-end, il y a quand même eu un accord important qui a été signé par l'un des deux candidats, David Layani, avec une partie des créanciers, et bien une partie seulement, essentiellement des fonds anglo-saxons, détenteurs d'obligations Atos, en gros. Il y a encore un petit doute sur... combien ça pèse exactement là-dessus. Moi, j'ai pas bien éclairci les choses, mais passons. En tout cas, donc c'est un accord important dont l'idée était de dire j'ai un accord avec une partie des créanciers, donc beaucoup de créanciers qui attendent de voir de quel côté ça tourne vont me suivre et je vais remporter Atos. Sauf qu'il y a eu une audition 24 heures avant de Daniel Kretinsky, vendredi, avec le conseil d'Atos, qui manifestement, en tout cas, semé le doute chez pas mal d'administrateurs d'Atos, où Daniel Kretinsky a joué sa partition depuis le début, qui est de dire « Ne croyez pas qu'Atos est en mauvaise situation, Atos est en très très mauvaise situation ». Et donc, a semé un petit peu la panique, en tout cas a fait peur à pas mal d'administrateurs et de créanciers, et également à l'administratif judiciaire, Hélène Bourboulou, son discours a été de dire si vous choisissez mon rival, donc David Layani, qui a une solidité financière beaucoup plus faible que moi, vous risquez d'avoir un gros problème dans un an. Donc, c'est un petit peu tergiversé dans la tête de pas mal de gens chez Atos, et hier, il n'était pas en mesure de choisir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dirigeants d'Atos hésitent, ça veut dire qu'ils commencent à se poser des questions, et dernier point, je m'arrêterai là, mais je suis un peu long, c'est que le point faible de David Layani, qui est le point fort de Daniel Kretinsky, c'est que ce sont les banques françaises. Les banques françaises, globalement, alors il y en a une qui effectivement est sortie du bois de manière très virulente, BNP Paribas, disant « Je ne veux pas de l'offre de David Layani, je soutiens Daniel Kretinsky », et qui commence à drainer pas mal d'autres banques françaises. Alors il y a quelques hésitations, mais globalement, les banques françaises sont en train de basculer du côté de BNP Paribas, même si tout n'est pas très clair pour le moment. Et la question se pose, sur une entreprise française comme Atos, est-ce qu'elle peut être restructurée sans les banques françaises? Et là, c'est une vraie question, puisque vous savez, ce sont des décisions de place financière, où finalement, à la fin, tout le monde vote comme un seul homme.
Alors, avec un point d'interrogation quand même, parce que d'après mes sources, sur le sujet des banques françaises et la Société Générale, et Natixis serait derrière OnePoint.
Bien écoutez, nous n'avons pas les mêmes informations, ma chère Audrey.
Pas les mêmes sources.
Et je peux vous garantir que rien n'est fait aujourd'hui.
Mais Edwige, est-ce que c'est pas un peu triste?
L'école a claqué la porte.
En fait, rien n'est arrêté là.
Oui, donc, d'accord.
Ça va le dingue. Je pense que toutes les banques discutent entre
elles.
C'est
mouvant, oui.
Les deux prétendants, évidemment, David Layani et Daniel Kretinsky, passent des coups de fil dans tous les sens. Il y a évidemment énormément de pression et de lobbying fait par à la fois BNP Paribas et Daniel Kretinsky vers les autres banques françaises et étrangères pour essayer de... Maintenant, c'est comme en politique, faut fédérer le maximum de gens. Dans ce genre de restructuration, encore une fois, les banques, notamment françaises, votent toujours dans la même direction. Et quand vous avez la première d'entre elles qui a donné une direction claire... J'ai du mal à voir que les autres finalement
Mais là, on ne parle que des banques françaises. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'ensemble des banques étrangères soutient David Lagnani. Et c'est quand même hallucinant que les banques françaises ne soutiennent pas le repreneur et la solution française.
Non, il y a plusieurs. Il y a les obligataires, il y a les hedge funds, il y a la banque commerciale, les banquiers.
Eux se sont exprimés.
Oui, c'est ça. Oui, mais donc vous avez différents types de structure bancaire un peu différent.
Pas tous.
Non, on peut dire que les obligataires ont plutôt soutenu la version de Lagnani, même si en même temps, je suis d'accord avec vous qu'il y a des,
non, mais c'est
il y a
pas
des
aussi
jeux,
clair,
rien n'est rien clair. Tout le monde, en fait, dit quelque chose, mais ne va pas jusqu'au bout de sa déclaration. Moi, je dirais simplement, d'un côté, vous avez une surface financière qui est beaucoup plus importante, qui est clairement celle de Daniel Kretinsky, mais qui, en même temps, lui, dit qu'il va trancher dans le vif, donc il y aura peut-être des récupérations ou pas.
Un casino bis.
Et puis, il ne faut quand même pas oublier que Bruno Le Maire a été clair, il veut retirer la partie là sur le nucléaire, qui est une partie très rentable, qu'espérait et que voulait garder David Lagnani. Or, visiblement, Bruno Le Maire, il nous l'a dit, c'est hors de question, c'est l'État qui va le reprendre. Donc, c'est une partie très rentable qui disparaît. Et David Lagnani, lui, il joue sur le côté souveraineté française, la solution française. En même temps, ce qu'on peut dire, c'est que derrière, il y a des hedge funds, et en fait, lui, il sera largement minoritaire. Donc, c'est là où chacun... Il n'y a pas une solution à 100%.
Mais justement, parce qu'en parlant de Bruno Le Maire, Mathieu, il s'est exprimé pour la première fois la semaine dernière sur le sujet de l'importance d'avoir un repreneur français, une solution française.
Mais toutes les parties stratégiques, elles vont sortir. Donc déjà, vous avez ce que je disais à l'instant, c'est que vous avez
une partie très rentable. La partie infogérance, elle reste.
Oui, mais qui, elle est beaucoup moins rentable. Hein, donc, c'est sûr.
Il y a une situation à front renversé, en fait, parce que l'entrepreneur français David Lagnani est soutenu par
une
majorité de fonds d'investissement anglo-saxons et beaucoup de banques étrangères. Et le candidat Daniel Kretinsky, qui a le désavantage de ne pas être français, on peut le dire comme ça, est soutenu, lui, par beaucoup de banques françaises. Donc c'est assez,
Alors qu'il est en plein démantèlement sur Casino.
Et donc
On peut se poser quand même la question de la véracité des propos de Kretinsky. Quand il y a trois semaines, il dit que Atos est une boîte morte, que finalement, il revient sur son offre pour être beaucoup plus favorable, notamment par rapport aux créanciers, et qu'aujourd'hui, il s'aligne quasiment
On voit où votre cœur balance, mais en même temps, il faut quand même rester très très prudent, parce que David Lagnani, lui aussi, il faut quand même voir qu'il aura 25%, 30% avec
Walter Becker. Bien sûr.
Et que derrière, c'est les anglo-saxons qui vont céder à l'Est-France.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce que je veux dire, c'est quand Kretinsky dit finalement, il y a trois semaines, qu'il veut démanteler la boîte et qu'aujourd'hui, il garde l'ensemble.
Il ne dit pas démanteler. Lui, il a toujours été intéressé par l'infogérance, partie. L'infogérance, pour lui, c'est très important.
Mais je crois que dans ce genre de situation, dernière chose, et c'était pareil sur Casino, personne n'est dupe.
Oui,
Atos ne restera jamais en l'état d'ici un an. Peut-être que ça va rester comme ça pendant un an. Mais la situation financière du Casino, tout le monde savait très bien que le groupe allait être démantelé. Et là, tout le monde sait très bien que même si
David...
Même si David Lagnani l'emporte, il n'aura pas d'autre choix qu'à un moment donné de céder des activités entières d'Atos. Ce sont des calculs financiers. Surtout qu'il propose beaucoup moins de dettes à écraser. Donc il gardera une société encore très endettée. Et qu'à la fin, ça l'obligera de toute façon à vendre des activités Atos. Donc Atos sera forcément démantelé, que ce soit l'un ou l'autre.
Bien.
Recherche de l'argent.
Donc, recherche de l'argent, on en revient toujours là. Donc, prochaine échéance, mercredi, les élections, l'échéance de l'imminence des élections européennes peut jouer.
Ça sera intéressant de voir du reste.
Ils ont dit mercredi, ça peut être demain.
Vous savez, c'est intéressant d'avoir une solution, entre guillemets, française.
Oui.
Avant les élections européennes.
C'est tout le point, ça c'est sûr. Il y a un sujet de calendrier, c'est clair.
On
va faire les choux gras de l'opposition. On verra bien, en tout cas, on continue de suivre le dossier, évidemment, sur BFM Business. Bon, sinon, alors, on s'attendait, on a eu confirmation de ce qu'on pressentait. Il ne s'est absolument rien passé sur les marchés aujourd'hui, trois jours après la dégradation de la note
souveraine de la France par Standard & Poor's. Absolument aucun mouvement, André, sur le marché obligataire aujourd'hui.
Aucun mouvement, et Bruno Le Maire, lui, en tout cas, a passé une bonne partie du week-end à relativiser la situation. Il le dit, ramener les déficits sous les 3% du PIB en 2027, il y croit toujours. Écoutez.
D'abord, moi, j'y crois. Retourner sous les 3%. Ensuite, je constate, vous avez oublié de le rappeler, Benjamin Duhamel, que trois agences de notation préalablement, Moody's, Fitch, TBRS, avaient maintenu la note française et reconnu la solidité de la stratégie de rétablissement de nos finances publiques. On n'est pas obligé de croire une agence plutôt que trois
autres. Elle est considérée par les spécialistes comme la principale agence de notation.
Oui, sans doute les mêmes spécialistes qui nous avaient expliqué qu'on serait en récession en 2023 et que les objectifs du gouvernement de 1 point de croissance étaient hors d'atteinte. L'INSEE vient de dire que nous faisons 1,1 de croissance en 2023 au-dessus des prévisions. Les mêmes qui vous avaient dit qu'en 2024, une croissance de 0,5 serait probablement difficile à atteindre. L'INSEE vient de dire que nous avions déjà 0,6 points d'acquis de croissance. Quelles conclusions ils feront tirer pour nos compatriotes ? 1. La France réussit économiquement. Et notre stratégie économique est solide et donne des résultats. Je le dis à tous ceux qui anticipent de la récession alors que nous faisons de la croissance et qui doivent réaliser que la France réussit économiquement, crée des emplois, ouvre des usines, a de la croissance là où nos voisins, Allemagne en tête, sont passés par la case récession.
Oui, sauf que S&P dit en 2027, on ne sera pas à 3% et dans le meilleur des cas, on sera à 3,5%. Donc on sera au-dessus des 3%. Vous la jugez comment cette décision, Emmanuel, vous, Standard & Poor's, logique, gravissime, conséquence ou son non-événement finalement?
Alors d'abord, je pense que pour la crédibilité d'une agence de notation comme Standard & Poor's, ne pas dégrader la France au vu des avertissements qui avaient déjà été adressés et qui n'ont pas été suivis des faits, je pense que la logique de la décision, c'était effectivement de dégrader.
Bah, les deux autres ne l'ont pas fait le mois dernier.
Oui, mais je veux dire, après chaque...
Il y a eu l'alerte du FMI, il y a eu pas mal de choses entre les deux. Hein.
Oui, et là, exactement. Effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que la France réussisse son pari. C'est-à-dire que des ministres de l'économie qui nous ont dit qu'ils y croyaient, il y en a eu 10 avant Bruno Le Maire, des promesses de ramener les déficits à 3%, il y en a eu 10 avant, il y en a même eu chaque année avant Bruno Le Maire, et en fait on n'a jamais réussi. Et Bruno Le Maire ne procède pas différemment de ses prédécesseurs qui n'ont pas réussi. Donc il n'y a aucune raison de penser que la situation des finances publiques françaises va s'améliorer durablement.
Bah alors surtout avec un tableau complété, on en a parlé ensemble la semaine dernière, sur ce dérapage de 6 milliards d'euros supplémentaires cette année concernant le trou de la Sécu. Ça tombait mal, évidemment.
Ouais. Moi je dirais, j'ai envie de dire, si déjà on est à 3,5%, je trouve ça très bien. Donc oui. Je ne suis pas très inquiète en me disant...
C'est l'hypothèse la plus optimiste.
Oui, mais c'est celle de Standard & Poor's. Donc, c'est bien, il dit 3,5%. Moi, je penserais qu'on serait plutôt au niveau de 4. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant quand même... dans l'interview qu'a donné Bruno Le Maire, notamment à nos confrères de BFM TV, c'est de dire, c'était toujours, j'ai sauvé l'économie française, je.
Ah oui, très personnel. Prend plus de gants, là, pour le coup.
Et donc, alors c'est vrai qu'il venait de fêter ses 7 ans de ministre de l'économie et des finances, il avait fait tout un pot à Bercy jeudi dernier, mais ce que j'ai trouvé un peu symbolique, c'est qu'il dit jamais nous, le gouvernement, le président Macron. Oui. Et alors quelque part, je me dis, ça veut dire quoi? Il est en train de faire son bilan pour mieux sauter après? C'est un peu ce qui m'a...
Ça veut dire que, en fait...
Surprise.
Ça veut dire qu'il pensait... puisqu'il pense toujours, évidemment, sans doute, à la présidentielle de 2027, il pensait qu'avec tout ce qu'il a fait pendant le Covid, et c'est vrai que ça a quand même été un des artisans du sauvetage de l'économie française pendant le Covid, il pensait que les Français lui sauraient gré pendant très longtemps d'avoir été le ministre de l'économie qui a sauvé leur emploi, etc. Or, il est manifestement en train de rentrer dans les esprits de tout le monde comme le ministre qui dilapide l'argent public et qui ne sait pas tenir les comptes.
Auprès d'un certain électorat,
rétablir sa vérité, qui était de dire, attendez, n'oubliez pas que cette situation budgétaire, elle est quand même le fruit de tout ce qu'on a fait pour vous de tout ce que j'ai fait pour vous pendant le Covid. Et donc je pense qu'il y avait cette volonté là pour dire
d'où le j'ai sauvé, effectivement.
Bah oui,
parce que lui, c'est pas lui qui distribue les billets.
J'ai sauvé
l'économie française,
c'est ça que la phrase est. Voir, et on l'a dit souvent ici, c'est plutôt le président Macron qui, effectivement, à chaque fois qu'il sortait, distribuait les billets. Pour le coup, lui, il a fait cette politique bouclier tarifaire, la politique, effectivement, pour sauver les entreprises. De ce point de vue là ça a coûté très cher, mais au moins ça a été efficace.
Bon, enfin, il reste quand même 3 ans
dans la réactivité de Bercy, qu'à l'époque tout le monde a salué, etc.
Voilà, tout à fait. Mais donc on voit bien qu'il voulait se démarquer.
Ouais.
Voilà. Politiquement, c'est intéressant à suivre.
Bon. Oui, absolument. Et on rappelle aussi que l'inflation qui gonfle les recettes fiscales, évidemment, est en train de se résorber. Donc, ça va compliquer les choses.
Bon, puis on en reparlera tout à l'heure. Pendant ce temps-là, Thomas Cazenave commence à recevoir les ministres pour essayer de trouver 20-25 milliards d'euros d'économies pour les prochains.
Ce qui ne provoquera rien, puisque vous savez bien que l'objectif principal d'un ministre, c'est quand même d'essayer qu'on lui réduise le moins possible son budget. Donc si vous comptez sur la bonne volonté des ministres...
Il faut juste dire que Bruno Le Maire, devant la Commission, il a reconnu qu'il fallait sans doute qu'il change
de méthode,
le modèle économique de Bercy. Ça, moi, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Mais
ils ont tous des très bonnes idées avant de passer à l'action, c'est ça le problème.
Emmanuel, que faites-vous?
Voilà.
Vous devriez être à Bercy.
Le Chypre 2027.
Certainement pas.
Hashtag le Chypre 2027. On va lancer ça sur les réseaux.
Quelle horreur.
Quelle horreur, je ne sais pas. Allez, c'est fini en tout cas pour ce soir. Merci beaucoup, Mathieu Pechberti, Emmanuel Le Chypre, Edwige. On se retrouve demain,
18h10. Avec Hugues Châtel, patron de la filière automobile. On va parler des voitures électriques. Plus personne ne veut des voitures électriques.
Voilà. Mais je pensais à Édouard Philippe qui pareil, donne des conseils en disant il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, il faut des mesures rigoureuses. Fallait les prendre.
Il y a qu'à Faucon.
Hashtag le Chypre 2027.
C'est lancé. Du décalage entre les paroles et les actes une fois qu'il faut mettre les mains dans le cambouis.
C'est fini. Merci à tous. À demain pour de nouvelles aventures. Nous on revient bien sûr dans un instant.
Bien sûr, on est ensemble en direct jusqu'à 20h.